France Inter. Architecte, designer et scénographe né à Téhéran, ayant grandi aux États-Unis, en Allemagne puis en France et vivant actuellement à Paris, India Madhavi a disséminé son style pop acidulé et sa grammaire visuelle ludique, joyeuse et colorée à Miami, Doha, Londres, Milan, Tokyo, Genève ou Arles. Celle qui se définit comme polychrome et polyglotte efface les frontières qui séparent décoration, design, architecture d'intérieur ou graphisme. Certaines de ses créations sont devenues des classiques de l'art décoratif contemporain. Il vous est peut-être arrivé de converser dans l'un des hôtels, restaurants ou boutiques qu'elle a conçus. Peut-être vous êtes-vous assis sur l'un de ses tabourets, parfumé avec l'un de ses flacons, habillé avec les motifs qu'elle a imaginés pour une grande enseigne, ou avez-vous bu un café dans une tasse de son invention. Si vous apercevez dans le réel ou sur internet des fauteuils roses faisant furieusement penser à des gâteaux boudoir, il est probable que ce soit aussi son ouvrage. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal. Eva Bester.
Bonsoir India Madhavi.
Bonsoir Eva.
Par quoi avez-vous été le plus préoccupée aujourd'hui?
Vous voyez, aujourd'hui, en arrivant ici, je sors de mon studio de création qui se trouve rue Lascaz. J'étais préoccupée par tous les sujets qui me préoccupent à peu près tous les jours, c'est-à-dire tous les sujets de la création qui sont les miens. Donc ça rassemble aussi bien la création d'espace, de projets d'architecture d'intérieur, comme de mobilier, comme d'objets plus petits, mais aussi bien de programmation, de création. Donc c'est en permanence, et j'avoue que je saute souvent d'un sujet à l'autre, d'une échelle à l'autre, voilà, d'un pays à l'autre aussi.
Est-ce que vous arrivez à bien compartimenter pour pouvoir sauter autant d'un sujet à un autre?
En fait, je trouve que dans la création, et c'est ça que je me suis évertuée à faire pendant toutes ces années, c'est de décloisonner un peu toutes ces disciplines qui sont très proches. Et finalement, souvent, le changement d'échelle permet qu'un projet en nourrisse un autre, qu'une échelle en nourrisse un autre. Et c'est chaque fois une sorte de système qui se déploie, et c'est presque plus facile de créer dans ce sens-là que de voir se renouveler en permanence sur un sujet unique. Ouais.
Quelle est la dernière couleur qui vous a réjoui cette semaine et où l'avez-vous aperçue?
Alors la dernière couleur, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin, c'est une couleur, c'est un mauve que j'ai appelé le mauve abassi.
Mais alors oui, je crois qu'on va en parler tout à l'heure.
Oui, on va en parler
tout à l'heure. C'est un miniaturiste persan.
Exactement, du XVIIe siècle.
Oui, on va en parler. Ouais. Est-ce que vous vous habillez en couleur, India Madhavi? Qu'est-ce que vous portez ce soir?
Alors, vous savez que moi, je manie les couleurs toute la journée, non? Et donc, j'aime bien rester un peu comme une sorte d'uniforme, puisque je vois les couleurs, j'ai besoin d'avoir un peu de neutralité sur moi, donc je suis souvent en bleu marine. Ce que je porte aujourd'hui, un peu bleu marine, mais j'ai toujours un accessoire ou quelque chose de très fort. Donc aujourd'hui, j'ai...
Une écharpe verte.
Une écharpe verte, qui est de moi d'ailleurs, et un imperméable jaune. Très beau, une sorte de jaune un peu vert. Voilà.
Thank you. L'impératrice, le morceau Médaille Iguale.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
India Madhavi, vous êtes irano-égyptienne, vous avez grandi entre les États-Unis, l'Allemagne et la France, vous avez fait vos études aux Beaux-Arts de Paris, puis vous vous êtes installée à New York, vous avez conçu des lieux tout autour du monde, vous évoquez un ailleurs qui a toujours fait partie de vous. Est-ce que vous changez de façon de penser quand vous changez de langue ?
En fait, je change ma façon de penser quand je, dépendant du pays où je suis plutôt. Parce que je suis comme une sorte de, j'ai l'impression d'être une sorte de caméléon. Et donc, j'arrive à rentrer dans une sorte de, d'univers assez facilement puisque j'ai tellement déménagé et j'ai, toute mon enfance, j'ai été l'étrangère de service, en fait. Et donc, c'était à moi de m'adapter. Et donc, non, je peux dire que c'est vrai que le langage apporte une autre façon de penser souvent. Et si je suis aux États-Unis, j'arrive à rentrer dans un mode un peu plus américain, je trouve. Quand je dis américain, je sais pas ça veut dire grand chose, mais peut-être que c'est un mode. En fait, j'ai l'impression d'être vraiment à l'écoute et de comprendre ce qu'on me demande de faire. Donc, je ne sais pas si c'est la langue ou c'est le pays qui compte plus.
Vos parents vous ont prénommé India car ils vous ont conçu en Inde. Et à l'école, on vous appelait Bombay ou Pakistan. Vous dites avoir toujours été la fille qui venait d'ailleurs, qui devait s'intégrer. Comment est-ce que vous avez fait ? Vous êtes développée comme un Zelig de Woody Allen comme...
Oui, un petit peu. Et en fait, c'était vraiment pas facile. Parce que, vous savez, quand vous arrivez en France, j'arrivais en France à Nice et puis ensuite à Vence. Vous savez, à l'époque, on faisait l'appel. Et tout d'un coup, on tombe sur le nom de India Madhavi. Donc, la maîtresse y prend à 4 fois avant de trouver la juste prononciation de ce nom. Et c'est vrai qu'on a toujours pensé que je venais d'Inde. L'Iran, on ne savait pas où c'était. L'Égypte, oui. Mais on ne savait pas que l'Iran, c'était la Perse. Et oui, donc il fallait s'adapter en permanence. Mais je pense que, justement, ça a développé chez moi non seulement cette capacité à m'adapter, à être comme un caméléon, mais aussi à développer d'autres types de langage, donc forcément un langage artistique. Et je suis allée dans une école qui s'appelle l'école Freinet, qui était très ouverte sur toutes les arts appliqués et les disciplines créatives. Et donc, on pouvait faire ce qu'on voulait, de la peinture, du dessin, de la poterie, de la menuiserie. Tout était très ouvert. Et je pense que, justement, à cause de ces problèmes de langage, je me suis réfugiée peut-être plus, j'étais plus sensible j'avais cette sensibilité artistique.
Lorsque vos parents ont quitté les États-Unis, c'était mai 68. Ils voulaient aller en France d'abord, mais l'aéroport était fermé.
Oui.
Et donc, vous vous êtes installée en Allemagne. Et d'un coup, le monde est devenu noir et blanc pour vous, Indiama Davy.
Oui, je passais du technicolor de mon enfance au black and white. Tout d'un coup, le ciel était bas, les bâtiments gris. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et il y avait justement cette joie que... En fait, je garde un souvenir très joyeux de mon enfance aux États-Unis, de cette vie en technicolor, de toutes ces bandes dessinées que je voyais à la télé à 8h du matin. C'était très... Les Tex Avery et les Bugs Bunny et les Mickey Mouse et tout ça, ça reste très ancré dans ma mémoire. Et le fait de l'avoir perdu, je pense, m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, je suis toujours à la recherche de cette lumière. Je pense qu'au travers de mon travail, je suis toujours à la recherche de cette lumière qui est très forte aux États-Unis, une espèce de lumière orange, très belle, qu'il y a moins en Europe.
Indiama Davy, c'est amusant que vous évoquiez Mickey Mouse, puisque je crois que là, vous venez justement de dessiner un mobilier dont un fauteuil Mickey a été récompensé.
Oui, absolument. C'est vrai que j'ai dessiné un fauteuil pour une marque qui s'appelle Gebrüder Tonné, que tout le monde connaît, des chaises Tonné, tout le monde connaît.
Et ils sont...
À Vienne, mais je crois que leur usine est en Italie. Et ils ont la particularité de savoir courber des bois. C'est une technique très particulière. Et j'ai fait un fauteuil un peu surdimensionné, comme ça, avec deux oreilles, que j'ai appelé Mickey, et qui est aussi une référence, évidemment, à ces héros de mon enfance.
Pour parler justement du noir et blanc, je crois que vous avez commencé votre carrière avec le décorateur Christian Liègre.
Oui.
Et c'était aussi un univers très noir et blanc.
Oui, alors Christian Liègre, c'est un univers pas noir et blanc, je dirais que c'est un univers de texture, un univers sans couleur, mais où la couleur est une texture réellement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait des études d'architecture. Et que l'architecture, en fait, quand on fait ces études-là, on n'arrive jamais à aborder les sujets qu'on voit le plus, c'est-à-dire tous les intérieurs, les surfaces, le mobilier, on traite jamais ces sujets-là. Et tout d'un coup, ça m'a permis de percevoir une approche très différente, de pouvoir concevoir un lieu, peut-être au travers d'un objet ou d'une matière, et de pouvoir d'apprendre à les assembler. Et c'est chez lui que j'ai appris ça, même si déjà à l'époque j'étais attirée par la couleur, mais lui me disait toujours que il savait pas faire, donc il me laissait faire la partie colorée, et je savais pas que j'avais ce talent d'ailleurs.
Dans votre belle monographie parue chez Chronicle Books, vous écrivez « Je vais vous en faire voir de toutes les couleurs ». Est-ce que votre goût des couleurs a évolué, vos palettes ?
Ouais, bien sûr. Au départ, quand j'ai commencé à traiter la couleur, donc c'était par petites touches. Puis après, je me suis aperçue que j'avais cette capacité à traiter des couleurs comme des amis et à les assembler. Donc j'ai voulu en user et donc j'ai commencé à faire des gammes très mélangées, aussi à mélanger des motifs floraux, des motifs géométriques d'une façon très libre. Et voilà, c'était comme une sorte de prouesse, c'est comme si je découvrais ce que je savais faire. Et puis après, j'ai voulu aussi renouveler ma façon de voir la couleur et j'ai expérimenté peut-être la couleur de façon monochrome. Et ça s'est vu surtout au Sketch à Londres, à la Gallery at Sketch, qui est un restaurant qui était tout rose. Et je l'ai fait tout rose parce que c'était comme une sorte d'installation, parce que c'était prévu pour durer 2 ans. Et ça a duré 8 ans, tellement ça a eu de succès. Et c'est vrai que j'ai tout fait rose. C'est une pièce qui fait 10 mètres par 10 à peu près, très haut sous plafond. Et les murs étaient roses, le plafond rose, les fauteuils roses. Enfin, tout rose, et c'était vraiment assez incroyable d'avoir cette ce côté monochrome.
D'ailleurs, on voit les dessins de David Shrigley qui faisait partie du décor aussi.
Oui, c'est surtout sa pièce à lui, c'est moi qui faisais partie du décor.
Ah non, fait. C'était quand même très important visuellement, l'aspect rose de la pièce. Et les sièges en velours avaient des formes de gâteaux boudoir. Et quand on regarde vos inspirations, India Madhavi, on voit des vraies photos de gâteaux.
Oui, absolument, parce que c'était volontaire. Et dans mon travail, il y a un côté à la fois joyeux, gourmand. Et surtout, il y a toujours cette notion un peu de cette idée de bande dessinée, voilà, de mon enfance aussi. C'est presque une petite caricature de. Et je savais que cet endroit devait aussi servir de salon de thé. Et je trouve ça amusant qu'on puisse s'asseoir dans une sorte de petit gâteau à la Charlotte comme ça. Et d'ailleurs, ces fauteuils s'appellent les Charlottes.
On voit votre façon de travailler dans cette monographie. On voit que vous passez, India Madhavi, par plusieurs formats. Le dessin frontal, le dessin de la salle vue d'en haut, des petites maquettes, des agencements d'étoffes et de couleurs ou de motifs comme un patchwork ou un mood board. Oui. Comment est-ce que vous vous y prenez pour un projet? Ça commence par des mots, ça commence par des images, des dessins, des photos?
Ben, en fait, il n'y a jamais de règles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de répondre à une question. Et je dirais la partie la plus difficile, c'est de définir la question à laquelle on veut répondre. Puis après, on peut commencer à chercher des références qui peuvent être des références d'images, qui peuvent être des références de textes, qui peuvent être... Il n'y a pas de règles. Et même dans l'expression, parfois je mets des petites images au mur. J'aime bien passer de la 3D à des vraies maquettes, parce que la maquette permet de résoudre d'autres problèmes. On peut tourner autour vraiment. Le dessin, l'esquisse, j'aime beaucoup. En général, dans mon studio, j'ai 4 outils que j'utilise tout le temps, et tout le monde le sait. J'ai une paire de ciseaux, du scotch, du Tippex et un feutre rouge. Et voilà. Et je découpe, je décolle, je joue beaucoup avec ça aussi.
Je suis heureuse qu'on ait rendu hommage au Tippex que j'affectionne beaucoup.
Le Tippex et le Stabilo-Boss, c'est pas mal
aussi.
Ah oui.
India Madhavi, dans une interview, vous dites qu'un décor sans faute de goût n'a aucun style.
Alors, ce que j'aime bien dans un lieu, c'est la singularité d'un lieu. Et souvent, quand on essaye de faire un truc sans faute de goût, ça veut dire que c'est pas décalé. Et ça veut dire que ça peut être plat. C'est sans doute ça que je voulais dire. Moi, j'aime bien les fautes de goût, j'aime bien ça, je trouve que c'est charmant, je trouve que la perfection, je vais le laisser pour l'intelligence artificielle, et je trouve que les fautes, c'est plus humain, en fait.
Vous en faites parfois ?
Oh, j'en fais beaucoup, et justement, la façon dont j'associe les couleurs, souvent, peuvent être considérées comme des sortes de fautes de goût, parce que je fais des... C'est des couleurs qui sont un peu décalées, comme ça, qui peuvent jurer. C'est comme une conversation où il y a une dispute, non ? C'est pas une conversation où il n'y a pas de... où il n'y a pas de arguments. C'est pas vraiment une vraie conversation. Donc j'aime bien quand les couleurs se foutent sur la gueule.
Est-ce que tout peut être source d'inspiration ?
Ah, moi, tout, vraiment. Et justement, c'est une façon de voir les choses, c'est un regard qu'on porte sur les choses. Et je dirais que, personnellement, moi, par exemple, je fais des photos, j'ai énormément de photos, j'ai ma propre photothèque. Et c'est pas forcément pour m'inspirer, pour pouvoir copier ou recopier ou être inspiré visuellement d'une chose, c'est aussi pour me souvenir d'un moment, d'une expérience. Moi, je considère que je fais des lieux de vie avant tout. Et les lieux de vie, c'est souvent... C'est pour provoquer des émotions. Et j'espère que j'arrive à faire ça avec les lieux que je crée.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Oh, et une montre.
Oh, permets, moustache, je suis en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur!
En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de... Je suis en retard.
Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi.
Non, quelqu'un m'attend. Maintenant, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard.
Ça, c'est Alice au Pays des Merveilles de Disney qui a marqué beaucoup de spectateurs. Et Inja Madhavi, vous avez imaginé plusieurs boutiques pour la durée.
Oui.
Et celle à Genève, dans votre esprit, c'était Marie-Antoinette qui rencontre Alice au Pays des Merveilles.
Alors, je ne sais pas si elle rencontre Alice au Pays des Merveilles, mais c'est surtout... Alors, je raconte un tout petit peu l'histoire parce que ça reflète vraiment ma façon de travailler. Quand la durée m'a demandé de repenser les salons de thé, je me suis dit que leur muse, c'était Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, c'était Versailles. Versailles, c'était les jardins, ça me faisait penser aux jardins. Et je me suis dit que finalement, la durée pouvait être un jardin de sucreries. Donc, à partir de là, j'ai commencé à construire autour de ce que c'est de ce que pouvait représenter un jardin de sucreries, c'est-à-dire travailler sur le avec le treillage, jouer avec une sorte de fantaisie, avoir un ciel étoilé où les étoiles étaient des macarons dorés brodés sur un ciel, une petite fantaisie sucrée, et puis j'en ai fait un deuxième à Los Angeles à Beverly Hills. Et là, je me suis dit, comment est-ce que Marie-Antoinette arrive à Los Angeles? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donc là, c'est un peu plus pop. Elle est juste de grosses fleurs, flower power, un peu, toujours dans les couleurs acidulées de macarons. Et ensuite, elle est partie au Japon. Donc, et là aussi, c'était une autre histoire, mais c'était toujours avec l'histoire de Marie-Antoinette comme muse. C'est amusant.
Et Inja Madhavi, quand vous avez ces idées, est-ce que vous êtes plutôt à votre table de travail avec une feuille de papier en train de prendre des notes, ou est-ce que vous êtes en train de vous balader, de penser, de contempler, et ça vient à ce moment-là, presque par accident?
Alors, là aussi, pas de règles. Dans mon livre, vous verrez le petit croquis que j'ai fait pour la durée à Los Angeles, c'est en un quart de seconde que je l'ai fait. Et puis, en fait, la réalité, ça ressemble beaucoup à ça. Et parfois, c'est beaucoup plus douloureux. La création est beaucoup plus... Quand il y a parfois des enjeux qui sont plus compliqués, comme par exemple à la Villa Médicis, c'était beaucoup plus long. Je sais pas, il n'y a pas de règles, en fait.
We'll be right back.
le groupe Justice et Kevin Parker du groupe Tame Impala, One Night, All Night.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
India Manavi, je sais que pour vous, le cinéma est très important et après le lycée, vous avez passé une année à aller au cinéma 3 fois par jour. Est-ce que vous vous rappelez des films qui vous ont marqué ?
Oui, bien sûr. J'ai vu tellement de films et je voyais toutes les comédies musicales américaines de Vincent Minnelli, mais je voyais aussi à la Cinémathèque les films d'Eric von Stroheim. Je me souviens de L'Aurore. J'ai vu tous les Hitchcock, j'ai vu tous les Stanley Kubrick. Donc, à l'époque, je pense qu'aujourd'hui aussi, ça continue comme ça, mais il y avait tout le temps des festivals, non ? Le festival du cinéma B américain, des films B, de série B. J'en ai vu, ouais, tous les films de Fellini. En fait, tous les films qui avaient un univers esthétique très fort étaient ceux qui me parlaient le plus. Donc, ça pouvait être. Ouais. Je pense que c'est Fellini, Kubrick.
Et peut-être la personne dont on va entendre la voix.
J'ai toujours essayé de travailler avec un acteur. Et je crois qu'un bon metteur en scène ne doit pas dire à un acteur « Je vous vais montrer maintenant ce que vous devez faire. » Parce que si je ferais ça avec beaucoup de gens, j'aurais 25 petits Fritz Lang sur l'écran et je veux avoir les acteurs. Alors je crois qu'un bon metteur en scène est celui qui peut retenir toutes ces choses qui sont dans un acteur, de le chercher, comment est-ce qu'on dit ça, de le
faire sortir.
De le faire sortir.
C'est Fritz Lang qu'on entend en 1969 sur l'ORTF. India Madhavi, vous aviez lu un livre sur sa vie, vu qu'il avait été architecte et vous êtes inscrite en architecture en comprenant que ce qui vous intéressait dans le cinéma, c'était davantage le cadre que la narration.
Oui, c'est vrai. En fait, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était un monde qui était réel. Voilà, c'était pouvoir me sortir de mon cadre à moi. C'était aussi bien la narration, mais aussi c'était un monde esthétique qui me plaisait. Et c'est vrai que j'avais envisagé de faire des études de cinéma. Et à l'époque, il y avait l'IDEC, mais c'était un programme de deuxième cycle. Et donc, j'avais imaginé que j'aurais pu faire comme Fritz Lang, commencer par l'architecture. Et ensuite faire des films. Mais en réalité, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est quand même assez proche du cinéma.
Et justement, est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs la façon dont vous avez créé la boîte de nuit à New York comme un appartement qui s'appelle APT, puisque j'ai trouvé ça très amusant.
APT.
Oui, APT.
Voilà. En fait, j'avais un client qui m'avait demandé de faire une boîte de nuit à New York. Et j'étais pas du tout intéressée parce que... je venais d'avoir mon fils qui avait 2 ans, 3 ans et j'étais pas dans le mode de la boîte de nuit. Et après beaucoup d'insistance, je me suis dit si je fais une boîte de nuit à New York, ça serait pas mal que ce soit comme un appartement. Comme ça, je pourrais peut-être me coucher un peu tôt, peut-être ça serait assez facile d'inviter mes amis. Et donc je lui ai proposé de. C'était dans l'immeuble de Petrosian à New York, c'était dans le Meat Market, il n'y avait rien du tout à l'époque. C'était un grand loft et je l'ai transformé dans un appartement, vraiment avec tous les défauts d'un appartement parisien. Et pour faire cet appartement, pour qu'il ait l'air un tout petit peu authentique, j'ai créé un personnage fictif qui s'appelait Bernard et qui était prof à Columbia. Il était prof d'anthropologie, je crois. Et donc j'avais fait une des pièces, c'était une photothèque, et avec toutes les photos de sa vie. Donc j'avais été acheter des photos au puces d'une vie imaginée, et c'est devenu un endroit très successful à l'époque. C'était vraiment, il n'y avait pas de nom sur la porte, il fallait connaître l'adresse, ça marchait que de bouche à oreille. Et pour rentrer, il fallait dire est-ce que Bernard est là? Et puis on répondait, non, Bernard n'est pas là, mais il a dit que vous pouvez rentrer, je vous en prie, rentrez. Et il y avait une cuisine ouverte, une table de salle à manger, un lit en plein milieu de la pièce principale. Il y avait un petit balcon, on pouvait fumer quelques clopes. Et au sous-sol, Bernard avait son propre club.
Et d'ailleurs, sacré Bernard.
Sacré Bernard. Dans les toilettes, il y avait, c'était avant le téléphone et avant le téléphone portable. Donc il y avait un tableau, les toilettes étaient recouvertes de tableaux noirs où on pouvait se laisser des messages ou noter ses numéros de téléphone. Et c'est pour cet endroit-là, pour ce club Epity, que j'ai créé mon tabouret Bishop, qui était en bois tourné au départ.
Voilà. Et qui est une de vos pièces phares.
Ouais. Exactement.
Ce qui frappe quand même souvent dans votre cinéma, cette esthétique, hein, l'usage et le dialogue entre les couleurs, la façon dont elles se complètent, dont elles s'imposent, d'où vous vient cet appétit pour la couleur?
Quand j'avais environ 30 ans, j'ai découvert que ma mère, au moment où elle m'a conçue, elle était habillée en noir. Et non seulement ça, mais pendant les 33 premières années de sa vie, ma mère a été habillée de noir à cause des différents deuils qu'elle avait subis.
Et donc,
je crois qu'elle a créé justement en moi un fils pour qui les couleurs brillantes, exubérantes, explosives allaient être le mode d'expression dans la vie.
Yo en mi paleta de colores,
d'abord dans ma palette de couleurs, dans mes films, je ne renonce jamais aux couleurs brillantes. Et ce pour plusieurs raisons. En plus de ce que j'ai raconté à propos de ma mère, c'est aussi parce que les premiers films que j'ai vus, c'était des films en Technicolor, et je recherche toujours ces couleurs vibrantes du Technicolor.
Inja Madavi, on entend Pedro Almodovar sur les couleurs dans Boomerang d'Augustin Trapenard sur la chaîne en 2020. Je sais que vous vous sentez proche de son vocabulaire graphique.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, il a utilisé certains de mes meubles, de mon mobilier dans son dernier film. Et là, on me refait une demande, donc je suis très honorée. Et oui, je comprends qu'il soit à la recherche de ce... Il n'a pas peur des couleurs non plus. Et je dois dire que la couleur, c'est... Moi, si je suis tellement attirée par les couleurs, c'est aussi une façon de créer une vibration. Et cette vibration m'apporte de la lumière. Et c'est presque... Oui, c'est cette quête de vibration qui m'intéresse plus que les couleurs en elles-mêmes. C'est vrai qu'il y a cette recherche de couleurs de mon enfance, c'est sûr, mais je pense que c'est une façon... et cette vibration me rend joyeuse.
J'ai horreur des termes artistes. Horreur. Je me considère plutôt comme un artisan parce que j'ai un métier que personne ne connaît plus et que nous avons tous oublié et que moi j'essaye de retrouver. Tout le monde essaye de retrouver. Ça a disparu, je crois, du temps de Degas, qui lui était encore un peintre plein du vieux métier.
Interview du peintre et ancien directeur de la Villa Médicis Balthus en 2000 sur France Culture. Il fut nommé directeur de l'Académie de France à Rome par André Malraux en 1961. Il y restera 16 ans, rénovant la Villa Médicis, ses ateliers et les jardins en leur redonnant l'esprit qu'ils avaient au XVIe siècle. Au XXIe siècle, vous, Inja Madavi, avez été invité à réaménager 6 pièces de la Villa dans le cadre du projet Réenchanter la Villa Médicis. Vous vous êtes inspiré de la Renaissance en la transformant, selon vos mots, en Renaissance pop. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance pop et quelle iconographie avez-vous consulté?
Bon, alors déjà, j'ai été invitée par Sam Stourzé, qui est l'actuel directeur de la Villa Médicis. Et c'est un projet qu'on a fait aussi en collaboration avec le Mobilier National. En fait, quand il m'a invitée à faire ça, c'était un projet que j'étais très honorée, premièrement. C'est un projet très intimidant parce que il y a un enjeu. C'est à la fois une institution, mais c'est aussi une maison. On y vit, on y reçoit du monde, mais ça se visite aussi, cet étage-là, en tous les cas, le piano nobile. Et en fait, moi, je me suis posé la question, on s'est posé la question avec mon studio, j'ai dit, mais... Comment est-ce qu'on peut rajouter de la beauté à la beauté? Il y a Balthus, mais il y a Richard Peduzzi, il y a Jacopo Zucchi, il y a des tapisseries du mobilier 17e italien, il y a tant de choses. Et comment est-ce qu'on vient s'inscrire là, dans cet univers? Et finalement, on s'est dit que peut-être c'était intéressant d'avoir une approche plus par l'expérience. Quelle est l'expérience supplémentaire qu'on pouvait offrir à la villa? Donc on a transformé un vestibule en salon de musique, en prenant le piano de Debussy, parce que Debussy il a été pensionnaire. On l'a sorti dans le vestibule. J'ai été choisir du mobilier au Mobilier National, qui m'ont très gentiment ouvert leur cave d'Ali Baba. J'ai choisi un ensemble de mobilier, le Sage. Et donc j'ai créé un vrai salon de musique qui n'existait pas. Et puis pour les chambres, qui, il faut le dire, ce sont des chambres qui font 70 mètres carrés. Il y a 4-5 mètres sous plafond, donc elles sont immenses, avec une toute petite fenêtre qui est la plus belle vue de Rome. Enfin, c'est une vue exceptionnelle. Et finalement, on a pensé que ce qui serait beau, c'est de pouvoir, en se levant le matin, avoir cette vue. Première chose, en se réveillant, c'est de pouvoir voir cette vue. Et comme les fenêtres sont très hautes, on a imaginé mettre ces lits sur des estrades. Et donc, on a commencé à regarder toute cette typologie de mobilier et qui existait vraiment au Moyen-Âge et puis à la Renaissance. J'étais allée aussi à Florence et j'ai vu d'ailleurs des lits comme ça, mais c'est vrai que les estrades, c'était aussi des coffres de rangement, c'était utilisé pour d'autres fonctions. Et donc on a travaillé sur ce mobilier, cette typologie de mobilier qui appartient au langage de la Renaissance, en utilisant des savoir-faire très français, donc de marqueterie de bois, en créant des motifs qui appartiennent à la Renaissance, de fausses perspectives, et avec des couleurs un peu incroyables, enfin moi je trouve, qui créent justement des vibrations et qui viennent, en fait, ce mobilier vient en fait converser, je crois, avec le décor d'une façon assez belle. Voilà, je trouve que j'ai expérimenté les chambres et j'étais assez contente.
Tout à l'heure, vous disiez que tout pouvait être source d'inspiration, India Madhavi, et on a évoqué très brièvement quelqu'un qui l'a été pour vous, c'est Reza Abbasi, un miniaturiste persan né en 1565 et mort en 1635, le plus fameux des peintres et calligraphes perses de l'école d'Ispahan. Il vous a inspiré notamment pour un papier peint.
Oui, absolument.
C'est votre découverte pour les auditeurs d'ailleurs.
Alors c'est en allant visiter son musée à Téhéran avec ma mère. Et alors, c'est vrai que, en étant iranien, on est très familier avec les miniatures persanes. Et tout d'un coup, je découvre ces pages qu'il a faites pour le Shahnameh, qui est le livre des rois de Ferdowsi, et des planches exceptionnelles où finalement les miniatures sont souvent cadrées. Et le cadre est rectangulaire et décoré. Et lui, il fait exploser les cadres, son paysage, ses arbres, ses chevaux sortent du cadre. Il a des couleurs incroyables, justement ce mauve étonnant que j'ai appelé le mauve Abbasi.
Et que vous faites figurer dans votre monographie.
Et que je fais figurer dans ma monographie. Et également, ensuite, par la suite, j'ai travaillé avec la maison de Gournay, qui m'avait demandé de dessiner un papier peint un petit peu orientaliste. Et je me suis inspirée vraiment de Abbasi et j'ai appelé cette collection de Abbasi in the Sky parce qu'il n'y avait plus du tout de cadre et flottait un peu sur un fond bleu marine. Et j'aimais bien faire redécouvrir son travail. Et souvent, je nomme des couleurs. Ça m'arrive d'inventer des noms de couleurs comme ça. Le mauve Abbasi me plaît, mais j'ai aussi le mandarine au lait, par exemple.
Mandarine au lait?
Oui, c'est une sorte de orange laiteux. Voilà, je trouve que c'est assez joli.
India Madhavi, je vous ai demandé un choix musical. Et juste avant qu'on le découvre, j'ai lu que le jazz, parce que ce n'est pas du tout du jazz, c'est de la pop, le jazz vous réconfortait. Miles Davis en particulier, vous aviez nommé votre fils Miles.
Oui, exactement. Oui, Miles Davis, c'est vrai que le soir, en rentrant chez moi, j'écoute en général du jazz. ça me réconforte et ça me... En fait, ça me réjouit. Voilà.
Et là, c'est Flowers de Miley Cyrus.
Ouais, Miley Cyrus, je trouve que... J'étais à New York quand il y a eu la Grammy Awards et je regardais en live cette, sa performance. Je l'ai trouvée vraiment formidable. Une espèce de féminisme assumé, pop et joyeuse. Voilà.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Flowers de Miley Cyrus dans Grand Canal sur France Inter. Et en parlant de fleurs, il y a une autre actualité qui vous concerne, India Madhavi, et ça se passe dans votre espace, dans le 7e arrondissement, c'est l'exposition Foreign Flowers jusqu'au 27 avril.
Absolument. Alors, avant de parler juste de l'exposition Foreign Flowers, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est la Project Room, parce que c'est un nouveau... C'est un espace que j'ai ouvert en 2020 et qui est un lieu d'expression libre. Avec une programmation très ouverte. J'ai des invités, il y a des takeovers, j'invite des... C'est vraiment une programmation que je fais 4 fois par an. Et j'invite des galeries ou des curators ou des designers. Voilà, c'est très ouvert comme format.
Et cette année, c'est Dan Tholey.
Alors, Dan Tholey, je l'ai invité dans le cadre de Matter and Shape, qui a été le nouveau salon de design qui a eu lieu début mars aux Tuileries. Je lui proposais de prendre la Project Room comme une sorte de petit satellite hors les murs et de proposer d'exposer des artistes, des designers, des créateurs autour du thème de, c'est lui qui a proposé ce thème, hein, de Foreign Flowers, et qui parle de la fleur avec une représentation peu classique, un peu étrange, sous toutes ses formes. Et c'est une exposition qui est formidable. On a aussi invité le samedi dernier des poètes à lire, à composer des poésies ou à lire des poésies. Voilà, c'est une autre façon de créer une communauté autour d'un espace. Et ça me paraît, pour moi, c'est important de pouvoir inviter aussi bien des galeries qui n'ont pas forcément de présence à Paris. J'ai fait ça pour une galerie mexicaine qui s'appelle le Go Project, ou une galerie grecque qui s'appelle Caruana, venir avoir à un moment donné, pour une période donnée, un espace à Paris et s'exprimer et de pouvoir tisser des liens avec une communauté de design plus européenne. Voilà.
Comment était-il Bonnard, Matisse, lorsque vous posiez pour eux ?
Pierre Bonnard ne parlait pas. Il ne parlait pas, mais sa présence, le fait d'avoir travaillé pour lui, je suis d'ailleurs la seule femme qui ait posé nue pour lui en dehors de la sienne. Comment l'ai-je su ? En apportant un jour une exposition au Danemark, j'étais avec son neveu, avec lequel je suis très liée, Terrasse, et il m'a dit, vous savez-vous, Dina, que vous êtes la seule femme qui ait posé nue pour Pierre, en dehors de la sienne. C'était une révélation étonnante.
C'est gênant de poser nue devant un homme ?
Non, pas devant un grand artiste. Ah,
ça n'est plus un homme ?
Non, ce n'est plus un homme.
C'est un peintre.
C'est un peintre. Il regarde exactement la femme qui pose comme il regarde un vase.
Dina Vierny dans Radioscopie de Jacques Chancel en 75. Pas sûr de la véracité de son propos qui a été contredit, je crois, par une historienne de l'art. Je crois que d'autres femmes ont posé nues pour Bonnard, mais le ton était charmant. India Madavi, vous avez une actualité récente qui est passée. C'est la scénographie de l'exposition du musée d'Orsay Hors les Murs à Melbourne, consacrée à Pierre Bonnard à la National Gallery of Victoria. Comment avez-vous pensé cette scénographie?
Alors, oui, tout ça est juste. J'ai pensé cette scénographie comme une exposition immersive. D'une part parce que l'espace était tellement immense, ce sont essentiellement tous les tableaux du musée d'Orsay qui ont été prêtés à la NGV, la National Gallery of Victoria, et l'espace était si grand que on avait imaginé que tous ces tableaux seraient perdus dans l'immensité de cet espace. Et donc, on a voulu redonner une dimension domestique à l'œuvre de Bonnard. D'une part, parce que Bonnard lui-même nous invite beaucoup au Canet, chez lui, qu'il y a une certaine intimité dans son travail. Et on est allé justement pour traduire cette dimension domestique, on est allé choisir dans ces tableaux des extraits de papier peint qu'on a retravaillé à une autre échelle, qu'on a retranscrit à notre façon, et on a créé toute une ligne de papier peint et on a essayé de mettre ces tableaux en abîme, comme ça. Donc en fait, on est à travers toute cette promenade d'exposition, on est chez Bonnard, dans ses tableaux, mais avec des fonds qui sont les siens. Et je pense que l'exposition était très joyeuse, très colorée évidemment. Et voilà.
Merci beaucoup India Madavi.
Mais je vous en prie Eva, merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. À Rome, on peut visiter la Villa Médicis et voir le réaménagement que vous avez imaginé dans plusieurs de ces chambres historiques. Votre monographie est parue chez Chronicle Books sous la direction artistique du studio Asherman. Vous avez dessiné une collection de carreaux de céramique pour la manufacture japonaise Alternative Artefacts Danto qui sera présentée pendant la semaine du design de Milan en avril. Et votre exposition Foreign Flowers a été prolongée jusqu'au 27 avril dans votre espace Project Room situé dans le 7e arrondissement de Paris. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Laurie Negrevergne, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, la technique Loïs Moreau.